10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Elisabeth Dorbonne, bonjour.
Bonjour.
Maupassant, l'écrivain qui décrivait sans phare la vie et la nature de la Normandie, votre terre familiale, parlait à propos de ses romans d'une nécessité d'observer avec impartialité et indépendance. Alors ce principe est commun à beaucoup de professions, mais s'applique aussi à la ministre du Travail que vous êtes. En premier lieu, il faut regarder la réalité en face pour rendre le souhaitable possible. Et ce qui est souhaitable en cette fin d'année, c'est d'éviter que ce casse-tête de Noël devienne, comme le dit le JDD, un casse-tête général pour tout le monde. Comment vivre un moment de rassemblement avec des gestes barrières? Comment éviter le casse-tête économique et social dès l'année prochaine? Comment la France peut-elle continuer à être ce pays qui aide le plus, peut-être au monde, ses salariés et ses entreprises? Et selon vous, d'ailleurs, les données que vous apportez ce matin peuvent aider à résister contre le pessimisme. Directrice de cabinet de Ségolène Royal, patronne de la RATP, préfète, ministre. Elisabeth Borne, vous connaissez bien la machine de l'État, une manière de dire que vous êtes aussi une technocrate, rompue à la négociation, donc prête pour la politique. L'année qui vient, elle sera électorale. Et vous avez entendu le souhait d'Emmanuel Macron qui a incité ses ministres à être candidat, un peu trop peut-être, puisque manifestement, vous n'avez pas encore le feu vert pour y aller. Vous souhaitez vous installer ou en tout cas être élu sur cette terre normande. Votre grand-père était le maire de Livarot qui a donné son nom au fromage d'Auge. Et vous êtes mobilisé par la crise en premier lieu et peut-être pas mobilisable pour la politique. Pour ce grand rendez-vous, je salue Nicolas Barré des Échos, Damien Fleurot de CNews qui vous pose la première question.
Oui, vendredi, on a eu la première vidéo du président de la République. Il expliquait quel était son état de santé. Je vous propose qu'on le réécoute.
Je voulais vous remercier pour tous les messages de soutien, de sympathie, de solidarité que vous m'avez envoyés. Je voulais vous rassurer. Il n'y a normalement pas de raison que cela évolue mal, mais je fais l'objet d'une surveillance médicale et je vous en rendrai compte de manière totalement transparente.
On a eu depuis un nouveau communiqué de l'Élysée. Vous êtes une ministre au cœur de la crise avec vos dossiers, les dossiers sociaux. Comment est-ce que vous êtes en relation avec le président de la République? Vous avez échangé ces dernières heures, ces derniers jours avec lui?
Non, pas ces dernières heures, mais vous savez, on échange beaucoup avec le président de la République par texto. Et voilà, moi je peux vous assurer qu'il reste tout aussi dynamique que d'habitude.
Est-ce que ça change un peu le fonctionnement tout de même de l'exécutif? Demain, il y a un conseil des ministres en visio, il ne se tiendra pas en physique.
Ça n'est pas nouveau. Hein. Vous savez, depuis le début de la crise et notamment depuis le deuxième confinement, on est très vigilant à ne pas réunir trop de monde autour de la table du conseil des ministres. Donc une partie des ministres est régulièrement en visio et je pense que demain, ça sera la même chose.
Alors, à propos de trop de monde, Nicolas Barré.
Alors oui, trop de monde autour de la table. Emmanuel Macron a reconnu une forme de négligence avec ce dîner à 10 à l'Élysée. C'est contraire aux consignes. Ça vous arrive aussi, à vous, d'être plus de 6 à table?
Alors moi, je ne fais plus de déjeuner ni de dîner de travail, vous voyez.
De réunion.
Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas non plus exagérer sur ce dîner. C'est un dîner de travail et on peut comprendre. Le président de la République, aussi besoin d'avoir des échanges avec les responsables de la majorité et c'est ce qu'il a fait.
C'est vrai qu'on peut avoir le sentiment qu'on exagère et que fond, c'est pas si grave, mais eu égard à toutes les contraintes que l'on demande aux Français, à toutes les recommandations qui leur sont faites du matin au soir par l'exécutif, on peut avoir le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures.
Enfin, moi, je vous confirme que le gouvernement, le président de la République, applique très strictement les gestes barrières. Si je vous prends l'exemple du Conseil des ministres, je vous le disais, hein, il se fait avec beaucoup moins de monde autour de la table, beaucoup de ministres en visio. Tout le monde porte le masque, donc on applique très strictement les gestes barrières.
Alors, juste pour terminer sur ce chapitre-là, effectivement, en ce moment, le président travaille de manière un peu différente. Ça change sa manière fondamentale de travailler avec vous, de gérer les dossiers, ou il est toujours dans cette logique de décider un peu dans son coin, de décider seul et ensuite de communiquer soit à la télévision, soit au dernier moment?
Il est toujours dans les échanges qu'on a avec lui pour effectivement partager les enjeux des dossiers comme on le fait d'habitude. Donc on continue à travailler, heureusement. Vous voyez, maintenant il y a la visio et donc on peut continuer à travailler avec le président de la République, bien qu'il respecte la consigne de s'isoler quand on est atteint par le virus.
Alors
avant de rentrer dans le détail des dossiers et des réformes qui vous concernent, peut-être un point de calendrier. Est-ce qu'il faut réformer les retraites avant la présidentielle? Ce matin, dans la presse du dimanche, François Bayrou dans le JDD, Richard Ferrand dans le Parisien, le président de l'Assemblée, disent non, ils disent pas avant la présidentielle. Alors quelle est votre ligne à vous?
Ma ligne, elle est très claire et je pense que c'est celle de tout le gouvernement. La priorité immédiate, c'est de surmonter la crise sanitaire, économique et sociale qu'on traverse. Il y a beaucoup d'incertitudes dans des crises comme celles qu'on traverse et il faut qu'on soit à 100% mobilisé pour apporter les réponses en fonction de l'évolution de l'épidémie et donc de ses conséquences sur la situation économique et sociale. Donc c'est la priorité, répondre à cette crise sanitaire, économique et sociale, ajuster nos dispositifs, c'est ce qu'on fait en permanence. D'accord. Pour ce qui me concerne, c'est tous les dispositifs d'activité partielle pour préserver les emplois. C'est les dispositifs qu'on a inventés dans la crise avec les partenaires sociaux pour permettre aux salariés qui sont dans des secteurs qui vont mal de se reconvertir. Donc c'est la priorité du moment.
Donc ça veut dire que la grande réforme des retraites, c'est mieux de la renvoyer à plus tard. C'est ça qu'on doit comprendre.
Je dis que c'est la priorité. Ensuite, on verra aussi de quoi sera fait 2021. Moi, je reste convaincue que la réforme des retraites, c'est une réforme importante, que notre pays a besoin d'une réforme pour mettre en place un système de retraite plus juste, plus lisible. Ça ne peut se faire que dans le dialogue social. Donc, il faut que le contexte
justement,
se prête à un dialogue social
Born,
avec
oui.
les organisations patronales
on
et syndicales.
On entend bien la précaution avec laquelle vous répondez, tout en disant que c'est important, mais ce n'est pas le moment. Et en fait, alors que la décision en ce moment, elle est de calendrier et pas sur le fond. Au fond, vous avez entendu tous les avertissements, justement, des partenaires sociaux, en tout cas des syndicats, qui ont dit, notamment Laurent Berger, si la réforme des retraites revient à l'agenda, c'est l'explosion sociale. Vous avez entendu cet appel.
J'entends les messages des partenaires sociaux. Vous savez, je passe mon temps avec les partenaires sociaux.
Voilà.
On a beaucoup de sujets en ce
moment. Vous ne
pouvez
pas l'ignorer.
Donc je ne l'ignore pas. Je considère que cette réforme, elle doit être menée dans le dialogue social. Et donc on verra en 2021 quel est le contexte, quelle est la capacité qu'on a à reprendre des discussions sur ce sujet-là. Mais on en a aussi beaucoup d'autres. Par exemple, l'assurance chômage avec les partenaires sociaux.
Mais finalement, vous voyez bien le contexte. C'est vrai que la situation sanitaire, elle peut changer très rapidement. On est en train de le vivre actuellement. Pour autant, Richard Ferrand, dans Le Parisien, il se projette déjà et il dit cette réforme des retraites, c'est une réforme du début du prochain quinquennat d'Emmanuel Macron s'il est à nouveau candidat et s'il est à nouveau élu. Est-ce que finalement, il ne faut pas donner cet horizon de façon plus simple pour tous les Français, parce qu'on le sait, le retour à la vie normale, il ne se fera pas dans les prochains mois, Elisabeth Borne.
Je pense qu'on n'est pas obligé de prendre des décisions définitives dans un contexte qui est marqué par l'incertitude. Donc moi, je vous le redis, c'est une réforme qui doit se faire dans le dialogue social. On voit bien que notre pays a besoin de sérénité, d'apaisement, et on verra en 2021 quel est le contexte.
Maintenant, on voudrait quand même comprendre, parce qu'il y a une difficulté de la part des l'acteur public de premier plan, comme vous, en tout cas, à dire effectivement, on va reporter. Mais on a quand même entendu le président de la République le dire très clairement aux sénateurs. On entend Richard Ferrand qui parle beaucoup, comme vous, avec le président de la République et qui transmet ce message. François Bayrou également, qui est en contact permanent. Ils ont certainement dû évoquer cette question lors du fameux dernier dîner. Pourquoi ne pas dire clairement? Parce qu'on entend ce que vous dites, effectivement, ce n'est pas le moment, on n'est pas serein, on n'a pas réglé la crise sanitaire. Pourquoi pas dire tout simplement, ok, on reporte?
Je crois que je ne dis pas autre chose que le président de la République qui a
J'entends
dit
bien.
Qu'il fallait
mais
avoir surmonté la crise
sanitaire. On vous sent
plus
prudente, en fait.
Non, enfin, je pense que je dis la même chose. D'abord, la priorité, c'est de surmonter la crise qu'on traverse. Ensuite, je ne sais pas qui ici peut me dire quand est-ce qu'on sera sorti de l'épidémie et quelle sera la situation économique et sociale au printemps prochain. En tout cas, pas moi. Et donc, c'est pour ça que je reste prudente sur la façon dont on pourra avancer en 2021.
Et sur l'ambition peut-être de cette réforme, on le sait, elle était à la fois sur la forme, mm-hmm. la retraite à points. Il y avait aussi un enjeu d'équation financière. Est-ce qu'il faut peut-être hiérarchiser cette ambition, ne pas tout mener de front?
Vous savez, cette réforme, elle visait à mettre plus de justice dans notre système de retraite. Elle partait du fait que
et aussi à équilibrer
certains,
les comptes.
Elle partait du fait que certains sont pénalisés par le système actuel. C'est précisément les travailleurs de la deuxième ligne, dont on a beaucoup parlé dans la crise, ben ça reste vrai qu'ils sont désavantagés par le système actuel. Donc, du coup, cette réforme, elle reste nécessaire.
Donc ça, ensuite, ça plaide pour ne pas trop attendre.
Mais je vous confirme, vous voyez, c'est pour ça que je ne vous réponds pas de façon définitive, parce que je pense que cette réforme, elle reste nécessaire. Elle est d'autant plus qu'on a bien vu ces travailleurs de la deuxième ligne qui ont des carrières hachées et qui sont pénalisés par le système actuel. Ensuite, il faut que les circonstances le permettent. Moi, je ne sais pas vous dire quel sera le climat économique et social de notre pays au printemps prochain. Je ne sais pas qui peut le dire. Et c'est pour ça que je reste prudente sur ce calendrier.
Et juste pour terminer là-dessus, avant la pause, vous brandissez effectivement son aspect, son volet social, justice sociale, ce qui était effectivement la réforme de base, le projet de base, d'ailleurs du candidat Macron à l'époque. Sauf qu'entre-temps, elle a évolué. Elle est devenue aussi une réforme avec un enjeu, en tout cas dans son projet, on va dire, d'équilibre des comptes, ce fameux H-pivot qui a un petit peu, entre guillemets, droitisé cette réforme. C'est parce qu'elle était mal emmanchée aussi que
mais
peut-être
vous savez,
il valait mieux qu'elle soit mise de côté et retravaillée.
Quand on a évoqué le sujet avec les partenaires sociaux en juillet, où on s'est défini un agenda social, dont fait partie la réforme des retraites, on a convenu qu'il était souhaitable de bien distinguer les enjeux financiers d'une part, de la réforme, la mise en place d'un système universel plus juste. Je continue à penser que c'est bien de distinguer les deux, sinon on est mal compris.
En tout cas, pour mieux comprendre, on se retrouve encore dans quelques instants.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et l'on retrouve Elisabeth Borne, ministre du Travail, avec l'arrivée donc des fêtes de Noël. Les Français ont pu repartir dans les magasins, le virus aussi. On écoute, on regarde.
C'est un peu contradictoire avec ce qu'on a vécu les dernières semaines, enfin, au niveau des distanciations et tout ça, des règles du confinement. Et...
Travailler à l'hôpital, ça m'inquiète un peu, mais après, faut que je vive. Là, ça fait 10 jours que j'étais confinée chez moi, faut que je sorte un peu, quoi.
Et à la fois, on a cette crainte de... que l'épidémie reparte encore et encore et encore.
Alors cette crainte que l'épidémie reparte encore et encore, ben on y est. Au Royaume-Uni, les autorités sanitaires et Boris Johnson ont décidé de reconfiner parce qu'il y a une mutation du virus avec des transmissions, semble-t-il, beaucoup plus rapides. Donc on reconfine Londres et le sud de l'Angleterre. Même chose en Italie. Et nous, en France, on est beaucoup plus attentiste, je dirais. C'est la recette pour préparer une troisième vague en janvier.
D'abord, vous voyez, j'espère que les oppositions qui nous ont expliqué qu'on était ceux qui s'y prenaient le plus mal vont méditer sur ce que sont en train de faire nos voisins. Manifestement, ce virus, il touche tout le monde, il touche toute l'Europe. Comme vous l'avez dit, on reconfine en Allemagne, en Autriche, au Royaume-Uni, en Italie. En France, je crois qu'on a pu tirer les fruits de ce qui a été fait au mois de novembre, de l'effort qui a été demandé aux Français. Et effectivement, ça a permis de passer, on était à 50 000 cas par jour, je le rappelle, au moment du deuxième confinement, à 10 000. Là, c'est vrai que les chiffres ne sont pas bons.
Oui, l'objectif était 5 000 pour pouvoir redéconfiner.
Confirme, c'est bien pour ça qu'on n'a pas fait tout ce qu'on avait envisagé de faire mi-décembre, notamment sur la réouverture des lieux culturels. Il faut rester extrêmement prudent dans la période actuelle. C'est bien les messages qu'on passe à tous les Français. Essayons de profiter un peu plus des fêtes de Noël, de faire nos courses, mais en même temps en étant très vigilants, parce que ce virus, il est présent sur toute l'Europe et il faut éviter évidemment que l'épidémie ne reparte en flèche, comme ça peut être le cas chez nos voisins.
Mais quand on voit justement tous ces pays autour de nous, y compris l'Italie, donc, on le disait, qui reconfine entre le 21 décembre, donc y compris Noël, jusqu'au 6 janvier, est-ce que nous, on ne prend pas un risque par rapport à ces pays qui sont plus stricts, disons ?
Attendez. Je rappelle qu'on a été critiqué au prétexte qu'on aurait des règles plus strictes que les autres. Alors maintenant, on ne peut pas nous reprocher d'avoir entendu les attentes sur la réouverture des commerces. Donc c'est ce qu'on a fait. La suite, elle dépend aussi de chacun d'entre nous. On sait tous maintenant les gestes à respecter. Les messages, ils sont très clairs. Il faut évidemment profiter de Noël, se retrouver avec ses proches, mais en étant en petit nombre, en appliquant au maximum les gestes barrières. Et je pense que chacun d'entre nous a une part de la suite de cette épidémie.
Il semble quand même que les pouvoirs publics, les autorités dont vous faites partie, aient quand même bien analysé aussi l'état d'esprit de la société, des Français qui devaient absolument respirer. La question de l'acceptation de toutes les contraintes était quand même au cœur des réflexions. Et il a été décidé peut-être de libérer un peu les Français pour Noël, sachant que la conséquence serait la circulation nouvelle du virus, c'est indéniable, on le voit, et donc un nouveau confinement, quelle que soit sa modalité, en début d'année.
On permet aux Français d'aller passer les fêtes de Noël avec leurs proches. Je crois que c'est une forte attente, comme vous l'avez dit, plusieurs mois après le début de cette épidémie. Je pense qu'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude, et je pense que c'était important de permettre aux Français de se retrouver pour ces fêtes de fin d'année. En même temps, on n'a pas supprimé toutes les précautions. Je rappelle qu'il y a un couvre-feu à 20h. Quand on a indiqué qu'on maintenait un couvre-feu à 20h, certains nous disaient que c'était trop strict. Donc, je pense qu'on essaie de trouver le chemin avec un virus dont le comportement n'est pas très prévisible. Mais on a un couvre-feu à 20h, il faut que chacun le respecte. On invite chacun à être très raisonnable pour ces fêtes de fin d'année. Je rappelle que le couvre-feu, vous voyez, par exemple, il est maintenu le 31 décembre. Là aussi, certains ont pu critiquer le fait qu'on maintenait un couvre-feu le 31 décembre. Donc, je le redis, chacun d'entre nous a une part de la suite de cette épidémie entre ses mains en respectant strictement les gestes barrières.
Alors, c'est vrai, indéniable que les décisions sont très difficiles et toujours contradictoires souvent à prendre. Mais dans ce contexte, il semble déjà que ce qu'on entend, ce qu'on croit comprendre, que les restaurants ne pourront pas rouvrir le 20 janvier. On a entendu les avertissements très nets à la fois de Bruno Le Maire et de même du Premier ministre Jean Castex ici même pour dire on ne peut pas garantir l'ouverture qui avait été annoncée pour le 20 janvier. Est-ce que c'est un scénario probable? Est-ce que vous dites aux restaurateurs et aux saisonniers, organisez quand même vos équipes et on verra? Ou attention, on ne garantit pas?
Alors les saisonniers, vous avez vu, et je pense que vous faites référence aux stations de sport d'hiver, qu'on a invité les employeurs à recruter les saisonniers. Là aussi, ça a pu faire rire. Moi, je suis très contente que ces messages aient été entendus, que 95% des saisonniers des stations de ski pour les remontées mécaniques aient été recrutés, parce que ça fait des gens qui ont de l'angoisse en moins, qui sont sécurisés, et ça permet aussi aux stations de ski d'être prêtes au moment où on rouvrira effectivement les remontées mécaniques, j'espère, début janvier. Je ne sais pas vous garantir que les restaurants pourront rouvrir le 20 janvier. Je crois qu'on espère tous qu'ils puissent rouvrir le plus tôt. En attendant, on les protège encore plus fortement que ce qu'on avait fait dans le premier confinement avec le fonds de solidarité, avec l'activité partielle qui prend en charge l'intégralité des rémunérations versées par les restaurateurs. Donc on met en place tous les dispositifs pour protéger ce secteur économique qui est particulièrement affecté par la crise.
Damien Floreau.
Dans vos propos, on entend un peu plus d'optimisme peut-être pour l'ouverture des stations de ski que celle du secteur de la restauration. Est-ce qu'on se trompe ?
Alors moi j'espère, et c'est ce qu'on a pu partager avec le Premier ministre quand on les avait reçus il y a une dizaine de jours, j'espère qu'on pourra rouvrir les stations de ski après les fêtes, le 7 janvier. C'est ce qui a été évoqué avec les responsables des stations de ski. Ça suppose aussi qu'on puisse faire un point, sans doute la dernière semaine de l'année, pour vérifier que l'épidémie est sous contrôle.
Alors pour autant, effectivement, le nombre de faillites reste limité, c'est ce que vous nous expliquez entre les lignes, vous allez vous le préciser. On s'attend quand même à une vague de défaillances l'an prochain. Quel scénario vraiment avez-vous en main?
Écoutez, vous avez vu qu'il y a beaucoup de scénarios qui ont été présentés, notamment par l'OFCE ou par la Banque de France. C'est des scénarios qui sont plus pessimistes que les scénarios actuels du gouvernement. En même temps, tout ça est marqué par beaucoup d'incertitudes. Mais moi, je note que je crois qu'on peut avoir confiance dans la capacité de rebond de notre économie. On a tous vu au troisième trimestre qu'on a eu la plus forte croissance de la zone euro, hein, 18,7%. Et puis, je crois que c'est important aussi d'avoir en tête qu'il y a toute une partie de notre économie qui fonctionne à peu près normalement, hein. On a 10 à 15% de notre économie qui est durablement affectée par la crise sanitaire, mais on a toute une partie qui fonctionne à peu près normalement. C'est bien ce qui explique que, par exemple, le plan Un jeune, une solution qu'on a mis en place marche bien, qu'il y a eu près d'1 million d'embauches de jeunes sur les mois d'août, septembre, octobre en CDD de plus de 3 mois ou en CDI. C'est ce qui explique aussi que l'apprentissage marche très bien. On est en train de battre tous les records avec plus de 420 000 apprentis pour la rentrée 2020. Je pense que quand je regarde aussi les prévisions de la Banque de France, moi, il y a quelque chose qui me frappe. Ils sont en train de tabler sur une hypothèse que l'épargne des Français aurait augmenté de 200 milliards d'euros
oui,
à la fin de l'année 2021. Mais donc ça montre qu'on a aussi une partie de la réponse, que c'est important que cette épargne, elle aille au contraire, elle ne soit pas effectivement mise de côté, mais qu'elle,
oui,
puisse,
qu'elle puisse
alimenter.
Alors, vous posez beaucoup de données sur la table. Nicolas Barré.
Sur les scénarios économiques, là, vous évoquez la Banque de France et l'OFCE, qui est un institut de conjoncture, c'est le scénario pour 2021 sur l'emploi. Là, c'est vrai que c'est quand même le grand écart entre ce que disent ces économistes. En gros, ils prévoient que l'année prochaine, il n'y ait quasiment pas de création d'emploi. Et puis, le scénario du gouvernement qui dit 435 000 créations d'emploi. Donc, entre 400 000, plus de 400 000 et zéro, on a un écart colossal. Est-ce que c'est vous qui êtes un peu en dehors des clous et beaucoup trop optimiste ?
Alors, nous, on n'est pas là simplement pour faire des prévisions. On est là pour entendre ce que nous disent les économistes et pour apporter des réponses. Je prends l'exemple de l'épargne que j'évoquais. Ça montre que la confiance sera quelque chose de très important pour la reprise de notre économie. Et tous les dispositifs qu'on met en place, c'est bien pour répondre à l'inquiétude des Français. Vous voyez, quand on met en place de l'activité partielle de longue durée qui permet oui. aux entreprises de protéger les emplois pendant un an, 18 mois, 2 ans.
Jusqu'où ?
Je pense qu'on donne de la...
Ça va durer combien de temps ?
Deux ans. Le temps que l'activité économique reparte. Je pense qu'on crée de la confiance. Vous savez, moi j'ai vu par exemple Safran qui est la première entreprise à avoir signé un accord de ce type. Je peux vous assurer que quand les salariés savent que d'ici 2021 il n'y aura pas de licenciement, ça crée de la confiance.
Non, mais d'accord, mais vous prévoyez au gouvernement plus de 400 000, encore une fois, création d'emplois l'an prochain. Les économistes très sérieux qu'on vient de citer sont plutôt à zéro. Comment est-ce que vous expliquez un tel écart ?
Je ne vais pas commenter chacun des paramètres sur les hypothèses de productivité, sur effectivement la confiance dans la reprise. Moi, je vous dis, on est surtout là pour mettre en place des outils qui permettent de garder le maximum d'emplois, de préserver le maximum d'emplois. Nous, enfin, je constate, vous savez, que ces accords d'activité partielle de longue durée qui évitent les licenciements, qui permettent, quand on a une baisse d'activité durable, de répartir l'activité entre tous les salariés, ils marchent très bien. On a plus de 7000 accords qui ont été signés, qui protègent 350 000 emplois. Je pense que c'est massif, vous voyez, d'avoir des dispositifs de ce type-là qui vont permettre aux entreprises de ne pas licencier, au contraire de former les salariés, puisque l'État finance la formation des salariés pour que les entreprises soient plus fortes en sortie de crise. Et puis, dans les outils aussi qui peuvent donner confiance aux Français, on a, avec les partenaires sociaux, élaboré, là aussi, des dispositifs pour permettre aux salariés qui sont dans des secteurs qui vont être durablement affectés par la crise, de pouvoir rebondir vers d'autres secteurs. Il n'y a pas de fatalité. Si on est dans un secteur qui est en difficulté, on peut aussi se former pour aller vers des secteurs qui recrutent, et il y en a.
Alors,
donc c'est tous ces outils qui permettent aussi de redonner confiance dans l'avenir.
Sur les aspects, on va y revenir dans quelques instants, sur tous les aspects donc, de ce plan de relance et de la crise du Covid. A tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui regarde la réalité comme elle est, sans phare, et qui, au fond, vous nous prévenez que, finalement, on peut se préparer aussi à des difficultés cet hiver, après donc ce moment de libération des fêtes de Noël. Est-ce que tous les dispositifs là, que vous nous avez décrits, est-ce qu'il peut supporter une troisième vague ?
Écoutez, d'abord, j'espère qu'on n'aura pas de troisième vague, et je le redis, ça dépend
aussi... On entend toujours, on fait tout pour éviter, ça veut dire qu'en général, elle va arriver. Hein,
ça dépend aussi de chacun d'entre nous. Et je vous confirme que les dispositifs qu'on met en place, on est très attentif à ce qu'ils puissent accompagner tous les secteurs qui sont le plus en difficulté. Vous avez vu que, par exemple, on va prolonger l'activité partielle prise en charge à 100% pour les secteurs qui sont fragilisés dans la crise. On accompagnera dans ces conditions toutes les entreprises qui pourraient être fermées, totalement ou partiellement.
Ou maintenues fermées, comme les restaurants.
Fermées, celles qui sont fermées et qui pourraient être fermées, effectivement, dans les prochaines semaines, elles sont accompagnées avec, on continue de le faire, l'activité partielle, qui a, je suis convaincu, sauvé des centaines de milliers d'emplois. On peut rappeler qu'au plus fort de la crise, c'est près de 9 millions de Français dont la rémunération a été prise en charge par l'État avec ce dispositif.
Alors on entend bien effectivement, l'appareil productif est maintenu, les compétences dans les entreprises sont maintenues, peu de licenciements. Mais vous avez évoqué aussi la réussite de l'apprentissage. Il y a un autre versant pour les jeunes, c'est l'explosion de la pauvreté, de la précarité. Ce sont un peu les cette génération sacrifiée, comme elle s'appelle elle-même aujourd'hui. Les étudiants, les petits boulots, ils ont du mal à accéder aux aides. Ils peuplent aujourd'hui les restaurants, secours populaires, Restos du Cœur. Quelle réponse pour ceux qui, au fond, sont les oubliés du plan de relance?
Vous savez que dès le mois de juillet, on a mis en place le plan Un jeune, une solution, précisément pour qu'on soit en mesure d'apporter une réponse à chaque jeune qui puisse être accompagné pour accéder à l'emploi. C'est les primes à l'embauche qu'on a mises en place de 4 000 euros. Quand vous recrutez un jeune en CDD de plus de 3 mois ou en CDI, je le redis, ça marche très bien. Il y a eu près d'1 million d'embauches de jeunes sur les mois d'août, septembre et octobre. On veut accompagner les jeunes, soutenir l'apprentissage, qui est une politique qui est portée depuis le début du quinquennat. On explose le record de 2019 avec 420 000
jeunes. Oui, mais comment vous confrontez à cette réalité de voir que les jeunes sont aujourd'hui ceux qui vont demander des restaurants, dans les restaurants,
peut-être d'ailleurs ceux qui sont encore aujourd'hui en marge qui ne bénéficient pas de ces dispositifs, qui sont plus loin peut-être de l'emploi encore aujourd'hui à mesure que la crise s'avance.
Mais vous savez, moi je suis vraiment très attentive à ce qu'il y ait des réponses pour chaque jeune, quelle que soit sa situation. J'ai évoqué les primes à l'embauche pour ceux qui sont proches de l'emploi ou encore l'apprentissage, mais on a aussi des dispositifs pour accompagner les jeunes qui sont plus éloignés de l'emploi vers l'emploi avec un accompagnement. C'est ce que les missions locales peuvent proposer, ce que Pôle emploi peut proposer. Et on a adapté le plan jeune fin novembre pour s'assurer que finalement, chaque jeune qui peut s'adresser à sa mission locale, à Pôle emploi, aller voir aussi l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, si c'est un jeune diplômé, a droit à un accompagnement vers l'emploi et à une rémunération jusqu'à 500 euros par mois, si c'est nécessaire. Donc on a une sorte de garantie jeune pour ceux qui
vous
connaissent.
Vous avez un tableau de bord, vous arrivez à les identifier, vous avez les outils pour évaluer combien de jeunes aujourd'hui sont dans la pauvreté ou tout simplement pour évaluer la pauvreté.
On a la situation particulière des étudiants puisque ceux-là, on ne va pas les amener vers l'emploi, il faut qu'ils terminent leurs études. Donc c'est pour ça aussi qu'on est attentif à la disparition des petits jobs, qu'on a annoncé 40 000 petits jobs, si je peux dire, dans les universités. C'est ce qu'on porte avec Frédéric Vidal, qui a des aides d'urgence pour les étudiants. Mais moi, je vous assure qu'on essaie vraiment de toucher chaque jeune, de pouvoir lui garantir un parcours vers l'emploi avec systématiquement une rémunération jusqu'à 500 euros. C'est vraiment un filet de sécurité pour tous les jeunes. On a une plateforme, Un jeune, une solution, où on peut retrouver toutes ces solutions, où on peut être recontacté par sa mission locale pour avoir cet accompagnement vers l'emploi. Et moi, je le dis vraiment aux jeunes, notre objectif, et je pense que c'est un objectif qui est crédible, c'est qu'aucun jeune ne reste sur le bord de la route malgré la crise que l'on traverse.
Nicolas Barré.
Alors sur le chômage, les discussions sur la réforme de l'assurance chômage doivent reprendre en janvier, avez-vous dit. D'abord, est-ce que c'est vraiment le bon moment, puisqu'on sera, on voit les chiffres de l'épidémie, peut-être en pleine reprise de l'épidémie, est-ce que c'est le bon moment de reprendre cette discussion?
Peut-être qu'il faut revenir sur l'objectif de cette réforme. L'objectif de cette réforme, c'est à la fois de lutter contre la précarité, qui est liée à un recours excessif aux contrats courts. Et ça, c'est le dispositif de bonus-malus, un malus pour les entreprises qui recourent plus que les autres à ces contrats courts. C'est aussi un dispositif qui vise à avoir plus d'équité dans le calcul de l'allocation chômage. Je rappelle qu'aujourd'hui, quand vous travaillez à mi-temps tous les jours ou quand vous travaillez à plein temps un jour sur deux, votre allocation chômage varie du simple au double. Donc je pense que ça reste pertinent de mener cette réforme de l'assurance chômage. Évidemment, il faut en adapter les paramètres en tenant compte de la situation actuelle et c'est l'objectif des concertations.
Est-ce qu'elle n'est pas aussi sensible politiquement, voire plus qu'une réforme des retraites qui reviendrait maintenant? Est-ce que ce n'est pas là, au fond, le dossier un peu explosif qui vous attend là en début d'année?
Moi, je pense que c'est un dossier qu'on doit être capable de mener en concertation avec les partenaires sociaux. Je pense que ces objectifs, ils sont parfaitement légitimes.
Ils sont mieux placés que l'État, plus eux que l'État.
L'État avec les partenaires sociaux, c'est vraiment ma philosophie. Et je pense que les objectifs sont légitimes. Il est plus que jamais nécessaire de lutter contre la précarité de l'emploi. Et par ailleurs, avoir des calculs plus équitables de l'allocation chômage, ça me paraît effectivement toujours très légitime.
On entend votre argument, mais...
On doit reprendre les discussions avec les partenaires sociaux. On doit tenir compte aussi d'un certain nombre d'indications du Conseil d'État qui a annulé une partie du décret qui avait été pris à l'époque. Donc, moi, je souhaite qu'on puisse reprendre ces discussions, je vous le dis, en janvier.
Pour terminer là-dessus, on entend vos arguments, mais on a le sentiment quand même que ce sont deux leviers contradictoires que vous émaniez. C'est à la fois indemniser quand on perd son emploi et ne pas trop indemniser pour permettre aussi de ne pas rester dans une sorte de confort et d'être incité à retrouver un emploi. Comment vous allez manier ces deux leviers qui, au fond, sont contradictoires au sein d'une même politique?
Je pense que vous savez, les choses, elles ne sont jamais toutes noires ou blanches.
Non, justement, c'est
et
pour ça que je dis qu'il y a une équilibre.
Ça fait partie des propositions qu'on a commencé à faire aux partenaires sociaux et sur lesquelles il faudra qu'on conclue à la rentrée.
Damien Fleurot.
Oui, Elisabeth Borne, la crise sanitaire a mis en avant, vous en avez parlé, des travailleurs de la deuxième ligne, et se pose la question du statut des travailleurs des plateformes numériques. Écoutez ces deux témoignages.
J'ai une grande flexibilité, je peux travailler autant d'heures que je veux.
Statut d'auto-entrepreneur, on nous le vend comme le statut rêvé. Le truc, c'est qu'il ne nous indique pas qu'on n'a pas de sécurité, pas d'assurance, pas de mutuelle, pas de chômage.
Voilà, on entend ces coursiers à vélo qui font des livraisons de repas. Comment est-ce qu'on concilie justement la nécessaire protection de ces travailleurs et l'agilité que demande ce secteur d'activité, notamment celui de la restauration, à emporter?
Alors, vous avez entendu qu'il y a aussi une aspiration de certains, c'est ce qu'a dit l'un des coursiers qu'on a entendu, c'est le souhait de pouvoir travailler quand on veut. C'est plus de flexibilité, plus de souplesse.
Mais travailler quand on veut ne veut pas dire zéro protection.
Absolument.
Forcément.
Donc, du coup, c'est bien pour ça qu'on a là aussi.
C'est pour ça qu'on a mis les deux d'ailleurs. Hein, qu'on a mis
absolument.
Les deux.
Mais vous voyez, moi,
vous avez choisi d'écouter le premier plutôt.
non, j'écoute les deux. J'écoute absolument les deux. Mais c'est effectivement là aussi le côté un peu dual hein, de ce problème. On a un certain nombre de personnes qui veulent plus de liberté, plus d'autonomie que ce que confère le statut de salarié, et puis par contre qui demande des protections.
Mais comment on avance sur ce dossier?
Donc on a ouvert ce chantier avec les organisations patronales et syndicales vendredi dernier. Le premier objectif, c'est d'abord que ces travailleurs des plateformes puissent avoir une représentation, puissent se mettre en situation de dialoguer avec les plateformes. Je pense que c'est une première étape importante pour rétablir en fait l'équilibre dans la discussion avec les plateformes. Si chacun discute tout seul avec la plateforme, ça marchera moins bien que s'il y a une représentation collective de ces travailleurs pour poser un certain rapport de force avec les plateformes. Donc c'est notre premier objectif sur lequel on souhaite déboucher au premier trimestre de l'année prochaine. Et puis ensuite, il y a tout le sujet de la protection sociale de ces travailleurs des plateformes qui fait aussi partie de notre agenda pour le premier semestre 2021.
Nicolas Barret.
Vous regardez ce qui se passe sûrement de temps en temps sur le marché de l'emploi aux États-Unis, outre-Atlantique. On est à 6,7% de chômage actuellement. On prévoit 5% l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des leçons à prendre de la flexibilité du marché du travail américain qui, on le voit, permet de donner davantage d'emplois qu'en Europe?
Je crois que c'est aussi des conditions de travail qui ne sont pas dans notre culture, hein, de la flexibilité aussi au détriment des salariés, des travailleurs, qui ne sont pas notre modèle. Moi, ce que je pense qu'il faut retenir hein, de ce qui se passe chez nos voisins, c'est peut-être une capacité à mieux accompagner les évolutions tout au long de la vie. Et c'est, j'évoquais rapidement tout à l'heure, le sens du dispositif qu'on a élaboré avec les partenaires sociaux. L'idée de se dire qu'on peut rebondir tout au long de sa vie, que quand on est dans un secteur qui va mal, on doit pouvoir être accompagné pour passer vers un secteur qui recrute.
Et ça, c'est plus caractéristiques facile dans les économies comme les États-Unis ou le Royaume-Uni que chez nous.
Si vous n'indemnisez pas les gens, c'est une façon de le faire de façon assez brutale, voyez. Et moi, je souhaite qu'on puisse avoir des réponses pour les salariés qui sont dans des secteurs qui perdent des emplois pour qu'ils puissent aller vers les secteurs qui recrutent. Je le redis, c'est le dispositif qui s'appelle Transition collective qu'on a élaboré avec les partenaires sociaux. L'État prendra en charge toute ou partie de la rémunération jusqu'à 100% quand on est dans une entreprise de moins de 300 salariés. On prend en charge la rémunération et la formation d'un salarié pour qu'il puisse rebondir vers un autre secteur.
Alors, on a entendu à travers ces politiques publiques votre fibre sociale. On va maintenant se poser la question, dans quelques instants, s'il en même temps est de droite et de droite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Nicolas Barré, une question.
Et il y a eu une révolution cette année, Elisabeth Borne, c'est la révolution du télétravail. Quel va être le régime à partir de, après les vacances du 2 janvier ?
Alors d'abord, je pense que c'est une révolution durable, mais on pourra y revenir. C'est aussi un outil important dans la lutte contre l'épidémie. Vous avez vu que l'étude du professeur Fontanet qui a été présentée jeudi dernier montre qu'en télétravail, on réduit de 30% les risques de contamination. Depuis le début du deuxième confinement, on a demandé que toutes les activités qui pouvaient être faites à distance soient faites en télétravail. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de salariés qui sont en télétravail 5 jours sur 5. Moi, j'entends les difficultés que ça pose à beaucoup de ces salariés. 6 sur 10 nous disent qu'ils voudraient revenir un jour par semaine au bureau. Et c'est ce qu'on va faire à partir du 7 janvier, évidemment, sous réserve qu'il n'y ait pas une dégradation de la situation sanitaire. On permettra à tous ceux qui sont en télétravail à 100% depuis le début du deuxième confinement de revenir un jour par semaine dans leur entreprise.
Donc ça va être le régime de base à partir du 7 janvier.
Absolument.
Un jour de
possible en présence dans l'entreprise par semaine.
De manière plus générale, vous avez suivi, vous êtes attentif effectivement à ce climat social. On a vu toutes les convulsions qui ont aussi accompagné, bousculé le quinquennat. Est-ce que vous craignez c'est une nouvelle flambée de crise sociale, de colère sociale pour 2021, comme on l'entend?
Je pense qu'il faut être très attentif parce que tout le monde est fatigué, il y a beaucoup de lassitude, il y a des gens qui sont en difficulté et donc évidemment, il faut les accompagner. Moi, ce que je note aussi, c'est que parmi les partenaires sociaux, il y a une très grande responsabilité qui contraste, je dirais, beaucoup avec ce qu'on peut voir dans nos oppositions. Les partenaires sociaux sont très responsables. Ils signent des accords sur le télétravail, précisément, sur la santé au travail. Avec eux, on construit des dispositifs pour mieux accompagner les Français dans la crise. C'est le dispositif transition collective que j'évoquais. Donc moi, je trouve qu'il y a beaucoup de responsabilités et on va continuer à mener ce travail avec les partenaires sociaux.
Damien Fleurot.
Oui, Elisabeth Borne, lundi, le président de la République a donc annoncé cette possibilité d'un référendum sur le climat. Est-ce que c'est véritablement une priorité, ce débat qui pourrait s'ouvrir, débat politique sur ce sujet majeur et important toutefois?
Écoutez, moi, je m'en réjouis. Vous savez, c'est ce que je souhaitais dans mes précédentes fonctions de ministre de la Transition écologique. Je pense que la crise sanitaire, elle n'a pas effacé la crise écologique et renforcé le rôle, ce que dit notre Constitution, les enjeux climatiques me semble très important. Ce n'est pas du tout anecdotique.
Oui, mais des responsables de la majorité disent, les retraites pour le prochain quinquennat, et là... ça vaudrait le coup de voter tout de même sur ce sujet-là avant 2022.
Mais je pense que c'est important qu'on n'oublie pas la crise écologique qui est toujours là et qu'on puisse avoir un grand débat dans le pays sur la place qu'on veut donner à la transition écologique dans nos politiques. Et le fait d'avoir un référendum sur ces sujets permettra de parler de ces sujets.
Vous imaginez l'énergie, parce que c'est la question, c'est modifier l'article 1 de la Constitution pour garantir la protection du climat. Vous imaginez l'énergie sur les débats institutionnels, juridiques. Les Français sont prêts pour ça, alors qu'à côté, il y a une loi climat qui peut-être ne va pas forcément satisfaire, qu'il y a des décisions qui ne satisfont pas. Est-ce qu'on a l'énergie pour se concentrer sur un référendum?
Je pense que c'est important de répondre à l'urgence, et c'est ce qu'on fait. Je pense que c'est aussi important de préparer l'avenir et d'inscrire la lutte contre le dérèglement climatique, la protection de la biodiversité dans notre Constitution. C'est préparer l'avenir.
Il n'y a pas le risque qu'on sanctionne celui qui pose la question, plutôt?
Écoutez, les Français sont aussi responsables. Les Français comprennent l'importance de ces enjeux. Et donc, je pense qu'on peut être confiant sur la qualité du débat qu'on aura autour de ce référendum.
Nicolas Barré.
Alors, le quinquennat d'Emmanuel Macron s'est équilibré plutôt, je dirais, vers le centre-droit, avec Jean Castex, avec Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Pour gagner en 2022, il va falloir rééquilibrer sur le centre-gauche ou la gauche?
Moi, je pense que c'est une erreur de perception ou un biais de perception de penser que le quinquennat a basculé au centre-droit. Vous voyez,
ce que disent vos collègues du gouvernement.
Enfin, moi, je pense que les politiques qu'on porte pour protéger les Français dans la crise, pour accompagner chaque jeune, pour être attentif, comme on l'est, par exemple, aux demandeurs d'emploi qui arrivent en fin de droit pendant la crise, ben, je pense que c'est une politique qui correspond tout à fait à mes valeurs. Et vous aurez compris que moi, je viens plutôt de la gauche.
Oui, mais effectivement, beaucoup disent aussi, on nous explique même en haut lieu, qu'on a changé d'électorat en cours de quinquennat, qu'effectivement, on est passé beaucoup plus à un électorat organisé sur le centre droit.
Vous savez, je pense qu'on ne voit pas assez, et c'est notre responsabilité aussi de donner à voir tout ce qu'on a fait pour protéger, par exemple, les salariés qui sont au SMIC. On a revalorisé, comme personne ne l'a jamais fait, les revenus des salariés qui sont au SMIC avec la prime d'activité, avec la suppression d'un certain nombre de...
Justement, Elisabeth, on entend campagne ou régionale.
On entend vos propos, vous défendez des valeurs, vous dites que vous venez de la gauche. Est-ce que vous allez défendre ces valeurs devant les Français lors des prochaines régionales et par exemple en Normandie?
Alors, vous avez envie d'aller?
Enfin, moi, je n'ai pas caché que j'étais intéressée par un mandat local, parce que je pense que c'est très complémentaire aussi de l'action qu'on peut mener au niveau national.
Et où en sont vos discussions avec le président de la République sur ce sujet? On sait qu'il, visiblement, il bloque un peu.
Alors, ce que je peux vous dire, c'est que je fais aussi partie des ministres qui sont en première ligne dans la crise, et donc que ça n'est pas compatible, qu'être tête de liste n'est pas compatible avec les fonctions que j'occupe. Je pense que les Français ne comprendraient pas, donc je ne serai pas tête de liste. Mais par contre, je vais continuer à discuter avec le mouvement pour voir comment je peux m'impliquer dans cette campagne.
Tête de liste départementale, par exemple.
On verra quelle place je peux prendre dans cette campagne. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et en même temps, la priorité, c'est l'action que je mène à la tête du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion.
Nicolas Barré.
Vous évoquiez le président de la République. Est-ce qu'il pourrait ne pas être candidat en 2022?
Je crois que ce n'est pas du tout dans son tempérament et je pense qu'il a des réformes qu'il a portées. Il a aussi de nombreuses réformes qu'on veut continuer à porter pour le pays. Donc voilà, mais en tout cas, je suis convaincue qu'on a encore beaucoup à faire pour transformer notre pays dans l'intérêt de tous les Français.
On vous pose la question parce qu'on a vu cela dans l'interview qu'a donné Richard Ferrand aujourd'hui, hein, le président de l'Assemblée nationale. On a pris sous cette petite musique de... S'il se représente, s'il était candidat, est en train de s'installer. Donc, c'est ce qui nous a posé un petit peu question. On l'a aussi lu dans cette interview. Le propos est de retrouver, projet de retrouver une France tranquille. C'est ça le monde d'après? C'est revenir au monde d'avant? Retrouver la France tranquille comme avant? Enfin, c'est ça la réinvention?
Je pense qu'avec la crise absolument inédite qu'on a traversée, avec ce que j'évoquais sur la lassitude des Français, sur forme d'épuisement que chacun peut ressentir, qu'il y ait besoin de rassemblement et d'apaisement, oui, je pense que c'est sans doute le cas. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Je pense qu'il faut qu'on puisse continuer à réformer notre pays, à rassembler. Et je crois que dans les sujets, en tout cas, que je porte, il y a tout à fait matière à continuer cette transformation pour le mieux de notre pays. Par exemple, en accompagnant tous les jeunes, en accompagnant chaque Français quand il a une difficulté dans sa vie professionnelle, en étant capable de rebondir vers une autre activité. Donc je suis convaincu qu'on peut réformer le pays comme ça.
C'était donc le grand rendez-vous d'Elisabeth Borne. Merci beaucoup. C'est l'occasion également pour moi de remercier Isabelle Moureau qui prépare cette émission avec nous, ainsi que Kai Naik, Mandour, Leslie Garrido, Rémi Dufour, Aubin Rabanland et bien sûr le réalisateur Jean-Luc Arblade. Bonne fête à tous. La semaine prochaine, Juliette Funès, notre invitée exceptionnelle.
Le grand rendez-vous européen
avec Les Échos et CNews.